Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève au-dessus de toi, apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l'éclat qui s'est levé sur toi. Regarde bien autour de toi et vois venir tous tes enfants. Ils se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonneras de bonheur. Tu en seras tout ému. Ton cœur éclatera de joie, car les richesses de la mer arriveront chez toi, les trésors des nations. Afflueront jusqu'à toi, ton pays se couvrira d'une foule de chameaux. Ce seront les caravanes de Madian et d'Épha. Arrivant toutes de Saba, elles apporteront de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur. Amen. L'aurore avant le jour. Nouvel an, c'est le temps des souhaits. Nous nous souhaitons que de bonnes choses, santé, joie, succès, prospérité, longue vie, etc. Mais, hélas, cela ne reste qu'un souhait. La preuve, pour certains, dès le premier jour de l'année, des problèmes peuvent tomber d'un seul coup, dès le 1er janvier. Mais cela ne nous empêche pas à présenter nos meilleurs vœux. Et le texte qui a été désigné pour la prédication pour ce jour tombe bien dans ce cadre-là. À première vue, rien que les trois premiers versets, on peut bien les sélectionner pour nos cartes de vœux, pour embellir nos cartes et souhaiter nos meilleurs vœux à nos amis, à nos familles. Mais je trouve que c'est dommage si ce genre de texte ne reste que dans la sphère des souhaits ou juste des phrases pour nous faire remonter le moral. Le péricope est divisé en deux blocs, la première partie du verset 1 à 3 et la deuxième du verset 4 à 6. Et ce n'est pas moi qui ai fait le découpage, je l'ai fait à partir d'un mot clé et plutôt d'un verbe conjugué à l'impératif. « Lève-toi !» À chaque fois, il le dit. « Lève-toi !» Et le mode ici est à l'impératif qui est à la fois comprise comme un ordre, mais plutôt une exhortation. Et cela nous fait rappeler la parole de Jésus face au malade paralysé de Capernaum. Il lui a donné l'ordre, « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Vous imaginez un peu la situation à ce moment-là, et en comparant avec cette histoire, la situation entre ces deux cas sont similaires, car dans l'histoire du paralysé, il était alité, il était paralysé, il ne pouvait même pas se déplacer sans l'aide de ses quatre amis, rappelez-vous, ses quatre copains qui ont ouvert le toit pour le faire entrer dans la pièce où Jésus était. Or, comment Jésus peut lui donner cet ordre ? Lève-toi, comme s'il était un fainéant. Même chose aussi pour notre péricope de ce matin. L'Éternel donne l'ordre aux enfants d'Israël, aux exilés qui reviennent en Israël, de se lever, de bouger et de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire reconstruire la cité qui a été détruite. Reconstruire le temple et ne pas attendre que tout soit résolu avant de commencer ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas attendre quelque chose pour que Dieu puisse agir, mais il dit « lève-toi ». C'est audacieux comme ordre. La leçon que j'ai retenue dans tout cela est la suivante. L'ordre a été donné avant que la solution soit visible à l'œil nu. Avant que tout soit résolu, Dieu te donne l'ordre de te lever. N'attends pas que la solution soit là et ce n'est qu'après que tu te lèves. Non, dans ton état où tu es là, lève-toi. Regardez bien ce qui est dit au verset 3. Des nations marcheront à la lumière et des rois à la clarté de ton aurore. C'est cette image de l'aurore qui précède la lumière du grand jour que le prophète exhorte les enfants d'Israël à se lever et à avancer. Parce que des rois vont venir vers toi. Vous imaginez cette image? Cela me rappelle l'histoire du prophète Élie aussi. Élie qui a prié pour que la pluie revienne. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Et je vais lire le passage dans 1 Rois chapitre 18. C'est une histoire vraiment invraisemblable. Au chapitre 18, versets 41 à 45. 1 Rois chapitre 18, versets 41 à 45. Écoutez bien au nom de Jésus. Ensuite, Élie dit à Achab, « Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. » Achab alla manger et boire. Quant à Élie, il se rendit vers le sommet du mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte donc regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et revint dire, « Il n'y a rien du tout. » À 7 reprises, Élie l'envoya regarder. Et la 7e fois, le serviteur déclara, « Oh, il y a un petit nuage qui monte de la mer, mais il n'est pas plus grand que la main. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Achab d'atteler ses chevaux et de redescendre avant que la pluie ne le retienne. » Le ciel devint de plus en plus sombre à cause des nuages amenés par le vent et une forte pluie se mit à tomber tandis que le roi Achab, sur son char, rentrait à Israël. Amen. Vous voyez cette histoire? Quand le prophète commença à prier, il n'y avait rien. Aucun signe qui pourrait donner un espoir qu'il va pleuvoir. Or, il a donné l'ordre, « Va rentrer chez toi, parce qu'il va pleuvoir. Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. » C'est étonnant. Il entend déjà le bruit de la pluie qui n'est pas encore là. Et il continua à prier. Il alla sur les hauteurs pour voir, mais encore rien. Mais à la 7e reprise, il y avait un petit nuage qui monta de la mer, mais qui était insignifiante car elle ne dépassait pas la taille d'une main. Mais en voyant cela, Élie a ordonné l'ordre de Achab d'atteler ses chevaux et de redescendre le plus vite possible. Pourtant, il n'y a rien qui presse. Ne soyons pas comme ce peuple qui ne fait que demander des signes pour avancer. C'est un peu notre cas souvent. Donne-moi un signe, Seigneur, pour que je puisse le faire ou pas. N'attends pas le signe. Avance, lève-toi et marche. N'attends pas les signes. Nous avançons dans la foi. Et la foi, c'est comme Élie. J'entends le bruit de la pluie, pourtant il n'y a rien. Ce n'est pas une foi aveugle, ni un saut dans le vide, mais nous attendons l'ordre. La foi s'accroche à l'ordre. Quel est l'ordre? C'est le Seigneur qui l'ordonne. Quel que soit ce qui se passe autour, c'est quand le Seigneur te donne l'ordre, fais-le. Même s'il n'y a pas d'indice qui pourrait te motiver pour la chose. Si c'est lui qui te l'ordonne, fais-le. Et c'est ce qui a fait la grandeur de la foi d'Abraham, comme il est dit dans le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 8. « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. » Et c'est ce qu'il a dit. « Il partit sans savoir où il allait. » Parce que c'est Dieu qui donne l'ordre. « Quitte le pays de tes parents vers un pays que tu ne connais pas encore. » Et c'est à cela qu'il s'est accroché. Il n'avait même pas l'itinéraire, il n'avait pas le GPS, il n'y avait pas un plan de voyage. Va vers un pays que tu ne connais pas. Qui pourrait oser faire ça? Cette façon de faire nous déstabiliserait car nous avons l'habitude, l'éducation, qu'on ne fait rien sans savoir où aller. Tout est planifié. Mais pour Dieu, va. Puisque c'est moi qui te le dis. Parfois, de temps en temps, Dieu nous fait sortir de nos logiques, de nos habitudes, de nos raisonnements, de nos chemins battus. Et c'est ça qui fait le charme de la vie chrétienne, parce qu'il casse notre routine. La routine, voilà, tu te lèves le matin, tu sais ce que tu dois faire, voilà le calendrier, l'emploi du temps, tu dois te lever à telle heure, tu dois manger à telle heure, tu dois aller à tel endroit. Mais Dieu dit, ouf, je vais changer tout ça. Avec des problèmes, des soucis, des épreuves. C'est ça la vie chrétienne. Tu vas là où tu ne sais pas où aller. Et à la fin de la journée, tu diras, l'Éternel est grand. Quand tu regardes ta journée, comment il t'a pu guider. C'est ça la vie en Christ. Jamais de routine. Il nous bouscule dans nos vies. Et d'ailleurs, dans notre péricope de ce matin, ce que le prophète annonce pour son peuple est étonnant au verset 5 et 6. Il fait mention d'une nation voisine qu'Israël connaît trop bien, les Madianites. Le peuple d'Israël avait une relation assez, comment on va dire ça, assez tumultueuse avec ces Madianites dans l'histoire. On va faire une petite récapitulation pour nous situer un peu. Qui sont ces peuples? C'est chez les Madianites que Moïse a trouvé refuge quand il s'est enfui de l'Égypte. Et il a même trouvé son épouse là-bas. Il a même épousé la fille du grand prêtre Jéthro, qui s'appelait Séphora. Ils étaient reconnus, ces Madianites, dans la domestication des chameaux, puisque c'est un peuple nomade, habile en commerce. Ce sont des caravaniers. Et par exemple, rappelez-vous l'histoire de Joseph, ce sont les Madians qui ont récupéré Joseph pour les vendre en Égypte. Et pour comprendre Israël, pour corrompre Israël, eux, avec les Moabites, ils n'ont pas pu acheter Balaam le prophète pour annoncer une malédiction contre ce peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des femmes pour livrer une vie de débauche afin de détourner les cœurs des enfants d'Israël pour oublier leur Dieu. C'était la stratégie qui est très subtile mais très efficace pour détourner le cœur d'Israël de son Dieu. Alors cette annonce du prophète est très significative car ce sont les peuples qui ont voulu faire du mal contre eux, mais à leur tour, qui vont venir de très loin avec leur caravane, apportant toute leur richesse pour reconstruire Israël. L'ennemi deviendra son allié. En d'autres termes, la solution pour Israël venait de là où il ne s'attendait pas du tout. Et si nous analysons bien la description qui est donnée au verset 6 de notre texte de tout à l'heure. Ton pays se couvrira d'une foule de chameaux, ce seront les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant de Saba, elles apporteront de l'or et de l'encens, en chantant les hauts faits du Seigneur. Cela nous fait penser aux caravanes de la reine de Saba, qui venait avec toutes les richesses qu'elle pouvait amener avec elle. pour offrir à Salomon parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse de ce roi et qu'elle a pris l'initiative de vérifier, de voir par ses propres yeux ce qu'elle a entendu. Et écoutez ce qu'elle a dit. Voici ce qu'elle avait dit, la reine de Saba. Dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse. Mais avant d'être venu voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on me disait. Or, tout cela était bien vrai, et même on ne m'en avait pas raconté la moitié. Ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu. Parce qu'il y avait les prouesses architecturales, le temple de Salomon, les louanges de la sagesse du roi. Alors Israël était à son apogée. Et donc c'est normal que les gens venaient tous pour admirer cela. On veut voir cette gloire de Dieu. Mais ça, c'était la belle époque. Ici, dans notre texte, il n'y a rien de cela. Il n'y avait que la désolation, il n'y avait que des ruines. Pourtant, le peuple, le prophète annonce que des peuples vont venir de très loin pour voir cette aurore, cette lumière. Alors la question que je me suis posée, quelle est alors cette lumière qui attire ces peuples voisins d'Israël face à sa destruction? Il n'y a rien à voir, il n'y a pas de parc d'attractions. Et là, il y a une sorte de réformation lors de la reconstruction du Second Temple, parce que les pèlerins vont venir à Jérusalem, non pas pour voir la beauté du bâtiment. Avant, c'était la motivation. On va venir en Jérusalem pour voir le temple. Mais cette fois-ci, des gens vont marcher des jours et des jours. Ils vont traverser le désert, non pas pour admirer la beauté du temple, ni pour voir quelqu'un comme Salomon et entendre sa sagesse comme au temps de ce roi. Mais ils viennent parce qu'ils sont attirés par la vraie lumière, qui est l'Éternel, qui brille au milieu de son peuple. Oui, chers frères et sœurs en Christ, cette prophétie a une portée eschatologique annonçant la venue de la nouvelle Jérusalem, où il est annoncé qu'il n'y aura plus de temple, puisque ce sera le Fils de Dieu qui remplacera le temple. Dans le livre de l'Apocalypse, il est aussi annoncé que dans le nouveau monde, il n'y aura plus de soleil, car on n'aurait plus besoin de soleil pour nous éclairer. Nous avons la vraie lumière, Jésus-Christ. En résumé, comme dit le texte de ce matin, des personnes vont venir vers nous s'ils voient cette lumière en vous. Au milieu de votre tristesse, au milieu de vos épreuves, cette lumière doit briller. Et cette lumière va attirer les gens vers le Christ, pas vers vous, mais vers le Christ. Et justement, cela ne dépend pas de notre présentation extérieure, que tu sois riche, beau, intelligent. Souvent, nous nous disons que si je suis béni extérieurement, alors les gens vont venir à Dieu. Non. Ça, c'est une tromperie. Parce que les gens ne sont pas attirés par le Christ, ils sont attirés par ta bénédiction. Mais ce qui est le plus important, pourquoi les gens se sont déplacés pour voir Job quand il était au milieu des ordures, la sagesse que cet homme avait. Dans sa douleur, sa femme l'a quitté, ses amis aussi, mais les gens venaient le consulter. Il y avait quelque chose dans ce monsieur qui souffrait, cette lumière que les gens autour de lui n'en avaient pas. Il y a quelque chose qui doit attirer le monde vers toi, chers frères et sœurs. Malgré tes maladies, malgré tes soucis, il y a quelque chose qui doit attirer les gens, qui n'est autre que Jésus. Jésus, qui est la lumière du monde. Amen.